matin, j'aimerais commencer mon sermon en lisant le récit de la création de l'homme et de la femme. Pour cela, nous allons nous reporter à Genèse, au chapitre 2, et nous allons commencer au verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il y avait formé. Au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Allons maintenant au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Chers frères et sœurs, dans ce récit, nous voyons que Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, le premier homme, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. C'était vraiment magnifique. Tout était bien. Tout était en ordre. Il y avait la beauté. Il y avait le bon goût. C'était vraiment là ce qu'on pourrait dire un bonheur parfait. Et nous allons continuer au verset 18 du même chapitre. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Maintenant, il faut voir ici, on ne parle que de l'homme. L'homme que Dieu a créé, l'être qu'il a formé de la poussière de la terre, l'homme en qui il souffla dans ses narines un souffle de vie, qui devint une âme vivante. Il faut voir bien que cet homme-là avait le pouvoir. Il avait l'opportunité de nommer les animaux. mais il n'y avait pas d'autres personnes que lui seul. Au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Tout était bien. Tout était en ordre. Pas de problème. Et Dieu était là avec eux. Okay. Et il faut remarquer encore l'ordre que Dieu a donné à cet homme. Au verset 16, au chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 16, l'homme, Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est que Dieu, à ce moment-là, parlait face à face à cet homme. Directement dans ses yeux, Dieu lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bon. Maintenant, cela va changer. Cela va changer. Et nous allons le voir. Aujourd'hui, quand on se demande pourquoi il y a tant de chaos, pourquoi il y a tant de misère, tant de confusion dans notre monde, chers frères et sœurs, nous devons nous reporter au commencement des choses. Il faut voir comment cela s'est passé et pourquoi sommes-nous là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi tant de confusion, pourquoi tant de misère, pourquoi les guerres? Lisons maintenant le chapitre 3 de la Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est-à-dire que l'homme a reçu des instructions précises, l'homme a reçu cet ordre de Dieu, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme était tout proche de sa femme. Mais la femme, c'est la femme que le serpent a adressée. Et la femme vit que l'arbre était bon. Et il semble que le mari, l'homme, partageait avec sa femme les ordres de Dieu. Parce que, et la femme a répondu au serpent, oui, nous mangeons. Dieu dit que oui, et nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et on continue. La femme par son intelligence a remarqué, ah bon, maintenant c'est ce fruit va nous offrir l'intelligence. C'est précieux pour l'intelligence. So, elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. L'homme n'a pas dit à la femme, non, n'écoute pas les paroles du serpent. L'homme n'a rien dit à la femme. Il n'a pas dit non. Je te défends de toucher, de même toucher l'arbre, parce que nous devons observer ce que Dieu a dit. Nous devons respecter l'ordre de Dieu. Mais ce que l'homme a fait, il a pris et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Voyez, au début, au verset 25 du chapitre 2, l'homme et sa femme étaient tous nus. Il n'y avait aucune honte, il n'y avait aucun problème. Mais maintenant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Voilà. Maintenant, il y a quelque chose. Ce n'était pas là au début. Adam n'avait aucun problème d'être nu. Il avait une relation avec son Dieu, son Créateur. Maintenant, il a peur de faire face à son Créateur. Pourquoi? Wow! Je suis nu. J'ai honte de moi-même. Et maintenant, Dieu lui a posé la question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Réponds-moi! Voyons la réponse de l'homme. La réponse d'Adam, au verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Aucune responsabilité. Ce n'est pas ma faute. J'ai rien fait de mauvais. C'est la femme. La femme que tu as mise, en d'autres termes, c'est ta faute, Dieu. C'est ta faute. Si tu n'avais pas mis cette femme auprès de moi, tout serait bien. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13, et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et chers frères et sœurs, vous savez le reste de l'histoire, au verset 14. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai l'inimitié en toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourne dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà le sort de l'humanité, le sort de notre monde. Mais ce que j'aimerais adresser avec vous ce matin, chers frères et sœurs, c'est de voir comment c'est facile pour nous de blâmer les autres. Satan, certes, a tenté la femme, mais le mari était tout près d'elle. Le mari, ou encore l'homme, avait cette opportunité de parler à sa femme, de guider sa femme. Mais, tout comme sa femme, l'arbre qui produisait le fruit de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et pourquoi pas? Et pourquoi ne pas manger le fruit et maintenant être comme Dieu lui-même? En ayant la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon ce matin, le titre du sermon c'est Les vertus de la repentance. Les vertus de la repentance. Vous et moi, nous sommes appelés pour faire partie du corps du Christ, ou encore l'Église. Le mot « Église » vient du grec, du mot grec « ecclesia », appelé « hors ». Nous sommes appelés hors du monde, et comment cela a été fait, chers frères et sœurs, dans Actes, au chapitre 2, Nous lisons dans Actes au chapitre 2, au verset 37. Dans Actes, livre des Actes, au chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Nous avons quelque chose à faire. Nous devons agir. Nous avons entendu tout ce que vous avez dit. Et nous, notre cœur est vivement touché. Il faut faire quelque chose. Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut voir cela. Le premier pas d'un cœur converti, c'est d'être repenti. La repentance. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, les vertus de la repentance. Si vous n'avez jamais repenti de vos péchés, chers frères et sœurs, il n'y a pas de conversion. Vous n'êtes même pas sur la route de la conversion. Et comment, qu'est-ce que cela veut dire, repentir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on professe? Quelque chose qu'on dit, ah bon, je me repens. Chers frères et sœurs, cela vient du cœur. Se repentir, c'est prendre, c'est assumer ses responsabilités. C'est de dire que c'est moi, bon, j'ai péché. J'ai transgressé les lois de Dieu. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. J'ai désobéi aux ordres de Dieu. Et c'est, nous voyons que Adam n'a pas pris le temps de se repentir. Au lieu de se repentir, il a mis tout le blâme sur sa femme. Et directement sur sa femme et indirectement sur Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui cherchent à blâmer Dieu pour leur misfortune. Quand les choses ne vont pas bien, ils sont toujours présents à dire, ah bon, c'est la faute de Dieu. Lorsqu'un accident nous arrive, nous en blâmons d'autres personnes. Ça, c'est sa faute. Tous les accidents, c'est pas facile pour quelqu'un de dire, ah bon, oui, c'est à cause de moi que cela est arrivé. Et même quand, lorsque nous sommes malades, au lieu de chercher à savoir par où nous avons transgressé les lois de santé, nous emportons le blâme la plupart du temps sur les autres ou sur les circonstances. Et cette tendance est générale. Aujourd'hui, je prendrai certains cas, sans mentionner les noms des individus, des cas qui nous permettront de mieux comprendre ce sujet. Au lieu de blâmer les autres ou de se sentir victime des circonstances, nous devrions tout placer les responsabilités là où elles sont en réalité, c'est-à-dire en nous-mêmes la plupart du temps. Vous vous rappelez, l'apôtre Jacques a dit ceci, et l'apôtre Jacques a dit que lorsque nous sommes tentés, il ne faut pas dire que nous sommes tentés par Dieu. Et nous sommes tentés, c'est à cause de nos convoitises. Quand nous sommes nous convoitons et nous faisons des choses parce que ce sont nos désirs et nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui nous tente. C'est dans Jacques au chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. C'était le cas de nos premiers parents. Parce qu'ils convoitaient l'intelligence. Ils voulaient être comme Dieu. Alors que seul Dieu peut être Dieu. Seul Dieu est Dieu. C'est lui qui a toute l'intelligence. Il a toute la plénitude de l'intelligence. Donc, Adam et Ève ont blâmé Dieu et lorsqu'il fut chassé du jardin d'Éden. Mais à qui était la faute? Et n'était-il pas vrai que Dieu les a mis en garde du péché? Et nous allons voir cela, et même la nation d'Israël, que les descendants d'Abraham, qui n'ont pas cessé de transgresser les lois divines, tout en blâmant Dieu. Et c'est comme si c'est Dieu qui les avait abandonnés. Et notez la réponse que Dieu donne au peuple d'Israël. Et lorsque le peuple, à l'intermédiaire de son prophète Jérémie, allons à Jérémie au chapitre 16, disons les versets 10 à 12. Jérémie au chapitre 16, versets 10 à 12. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Verset 11. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux et ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Verset 12. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. Ouais, les gens veulent jeter le blâme sur quelqu'un d'autre et non pas sur eux-mêmes. Et la réponse de Dieu est claire parce que Dieu leur a dit, non, vos pères m'ont abandonné. Et vous, vous faites pire que vos pères. Et c'est là, chers frères et sœurs, quand nous voyons ce qui se passe dans notre société, dans nos sociétés, dans notre monde, c'est parce que les hommes ont rejeté Dieu. Et après avoir lu ces versets, pourriez-vous vous demander à qui la faute? Non. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur vie. Ils pensent que Dieu ne les a pas favorisés. Ils auraient voulu être nés dans une autre nation ou dans une famille plus favorisée. Ils sont constamment sur la défense Il préfère jeter la faute ou le blâme sur quelqu'un d'autre au lieu de reconnaître leur propre responsabilité. Non. Considérons la question de maladie. Nous savons que tout ce que la maladie est la conséquence du péché. Lorsque nous mangeons mal, par exemple, lorsque nous perdons le sommeil, bref, lorsque nous transgressons les lois qui régissent la santé, il va sans dire que nous tombons malades. Et parfois, on se demande, ah, bon, il y a des gens qui pensent que la maladie, c'est... Nous sommes, notre corps humain, c'est un appareil. Et ça fonctionne. Si vous avez une voiture, quand vous achetez cette voiture, on vous donne des instructions précise comment il faut faire ce qu'on appelle des tune-up dans la voiture, il faut changer l'huile de temps en temps, il faut ce qu'on appelle des maintenance, il faut maintenir et il faut entretenir la voiture, il y a des entretiens qu'il faut faire. Si vous n'entretenez pas la voiture comme il le faut, eh bien ça va être en panne, ça va tomber en panne, et puis maintenant, c'est fini. Et c'est le même pour notre corps humain. Nous devons prendre conscience, hein, c'est que Dieu nous a donné un corps, et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et nous devons éviter certaines choses. Et, par exemple, comme la Bible a dit, mon corps périt par manque de connaissances. Parfois, nous avons besoin de certaines connaissances. Nous avons besoin de lire des livres concernant notre santé. Et même dans l'Église, nous avons une brochure qui a été écrite par Dr. Douglas Ronell concernant la santé. Lisez, cherchez à vous familiariser sur certains principes sanitaires pour savoir comment prendre soin de votre corps physique. Il faut éviter les sucreries. Il faut éviter, par exemple, il y a des jus qu'on vend sur le marché et qui est confectionné avec du sirop de maïs. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, ça c'est un ennemi pour la santé. Le sel, surtout le sel artificiel, qui n'est pas bon du tout pour la santé. Il y a quelque chose qu'on fabrique. C'est un produit chimique et qui donne un goût vraiment, je dirais, qui flatte nos palais. Mais ça, c'est du poison. Essayez de faire de votre mieux, de manger comme Dieu nous a demandé de le faire. Dieu nous a donné des fruits, des légumes, des choses qui sont très bonnes pour notre santé. Il faut boire beaucoup d'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Si vous voulez boire du jus, soyez sûr que ce sont du jus pur, du jus frais que vous pouvez confectionner vous-même. Reportons-nous maintenant à Exode au chapitre 15, verset 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Dieu qui parle aux enfants d'Israël ici. Comment, s'ils écoutent Dieu, s'ils pratiquent les lois que Dieu leur a données, ils ne seront pas exposés à des maladies, à certaines maladies. Exode au chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cet avertissement est clair. Dieu est toujours celui qui nous guérit. Mais nous devons faire notre part. Nous devons cesser de transgresser les lois qu'il nous a données. Certes, la médecine peut nous aider, mais il n'y a que Dieu qui puisse nous guérir lorsque nous sommes malades. Vous savez, et quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Le médecin peut vous donner une prescription, le médecin peut vous aider, peut traiter votre maladie. Mais seul Dieu, Dieu seul peut guérir. Considérez le cas d'un individu dans la Bible que le Christ avait guéri, mais remarquez surtout l'avertissement qu'il lui a donné. Et on trouve ça dans Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5 et 6. Jean chapitre 5, versets 5 et 6. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et au verset 8, Jésus dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Au verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Continue au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pèche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Maintenant, ici, péché, quand Jésus lui dit, ne pèche plus, ce ne sont pas les 10 commandements, de transgresser les 10 commandements. Mais c'est la transgression des lois de santé. Dieu veut que nous pratiquions les lois de santé. Si vous ne dormez pas à l'heure, parce que c'est Dieu, le sommeil est très important pour notre santé, parce que pendant le sommeil, nous avons des hormones et le sommeil nous aide à reprendre notre force physique et mentale. Et il faut fixer un temps pour aller au lit et fixer un temps pour se réveiller et il faut travailler, il faut faire des exercices physiques parce qu'il y a même la Bible dans le livre des Proverbes nous a dit que nous devons faire des exercices physiques et nous devons travailler et aussi nous devons chercher à faire de notre mieux pour garder notre esprit sain. Quand je dis ça, il faut être positif, il faut chercher à être positif en tout lieu, il faut méditer sur des choses positives, sans quoi c'est facile d'être déprimé. Il y a beaucoup de gens, même dans l'église, qui souffrent de la dépression. Et il faut faire attention à ces genres de choses. Si vous vous sentez découragé, si vous avez des doutes, si vous avez de la haine dans le cœur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous conseillerais d'aller vers Dieu, de lui prier, et de chercher à savoir ce qui se passe. Et parfois, vous devez même chercher l'appui de votre pasteur, l'appui de quelqu'un qui peut vous aider. Parce que sans quoi, c'est facile de tomber dans la dépression et ça peut être vraiment détrimental pour vous. Et il est certain que Satan, le diable, est coupable de ce qui se passe en ce bas monde. Il veut que les êtres humains se rebellent contre Dieu, contre lui-même, comme lui-même s'est rebellé contre Dieu. Satan cherche avant tout à semer des doutes, comme je viens de vous le dire, de l'esprit de ceux que Dieu appelle. Et c'est ainsi que nous lisons dans Apocalypse au chapitre 12 au verset 19. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui, Satan cherche à tout prix à nous détourner de Dieu. Les élus, en l'occurrence, sont ceux qui Dieu appelle en ce bas monde et qui font la volonté de Dieu. Les élus savent qu'ils ont une mission et ils s'efforcent de la conclure quel que soit le prix à payer. Et c'est comme je vous ai dit au début du sermon, la repentance est le premier pas de la conversion. Parce que quand on s'est repenti, on s'assume ses responsabilités, nous assumons nos responsabilités. Si donc vous êtes parmi les élus que Christ s'est choisi, vous devez comprendre vos responsabilités au lieu de vous laisser séduire par le mensonge et les accusations. Si vous êtes parmi les élus, Satan voudra vous empêcher par tous les moyens possibles de progresser. Comme l'apôtre Jean l'écrit au verset 10 de ce même chapitre, et ici au verset 10, nous voyons que chapitre 12, verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Non. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, la façon de ne pas tomber sous les pièges de Satan, si quelqu'un est dans l'église, est cause des accusations. Il est tout possible que Satan, le diable, soit derrière une telle chose. L'un des versets bibliques les plus importants en l'occurrence est l'avertissement que le Christ nous donne concernant la façon de mettre fin à une dispute entre deux individus. En effet, ayez toujours en tête cette instruction que le Christ nous a donnée dans Matthieu au chapitre 18, verset 15. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Si on pratique ce principe-là, chers frères et sœurs, ce principe-là, il n'y aura plus de problèmes entre nous dans l'Église. Et Dieu lui-même le sait. Le Christ le sait. Voilà pourquoi il nous dit dans Matthieu, au chapitre 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Au verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Vous voyez, ça c'est une question de responsabilité. Vous approchez de votre frère avec un esprit d'amour, un esprit de bien bienveillance. Et vous n'allez pas accuser, vous n'allez pas dire, ah bon, ok, vous avez tort, maintenant, j'attends votre, vos excuses. Non. Il dit que il faut aller avec entre toi et ton frère. Quelque chose qui ne va pas, ok? Il faut prendre le temps. Mais avant tout, chers frères et sœurs, vous devez voir vos propres responsabilités et vos fautes, vos péchés. Et lors de toute discussion, ayez toujours en tête que la responsabilité dans chaque cas sont souvent partagées. Parfois, on peut voir la faute de l'autre personne. Et puis, pour soi-même, on est innocent et on a toujours raison. Mes chers frères et sœurs, vous devez aller votre frère avec une attitude chrétienne, en ne jetant pas le blâme entier sur lui. Si l'individu en question ne connaît pas sa part de sa responsabilité, voici le chemin à suivre, comme le Christ a dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Quand il y a d'autres personnes, maintenant qui sont témoins, maintenant, on peut partager, on voit. Parce que parfois, il y a quelque chose et je peux voir la situation d'une façon et l'autre personne peut voir la situation d'une autre façon. Mais quand on cherche, quand on amène d'autres gens, mais on met la situation sur le tapis, sur la table, maintenant, on a diverses opinions. Et maintenant, ça peut éclaircir les choses. Maintenant, s'il refuse, si cette personne refuse de voir sa part de responsabilité, maintenant, on va vers l'église. Et maintenant, si la personne refuse d'écouter l'église, verset 17, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-lui à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit de Dieu, comme quelqu'un du dehors. Parce que là, le bord du temps, il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont dans l'église, mais qui ne sont jamais été convertis. Ils sont là, l'église pour eux, c'est un club social. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent, même pendant le sabbat, ils n'ont aucun respect pour le sabbat, ils n'ont aucun respect pour Dieu, ils ne veulent même pas parler des choses spirituelles, ils parlent des choses personnelles, ils parlent de leurs affaires, de leur commerce, voilà. Et ces gens-là, bon, ce n'est pas à moi que de dire qu'ils sont convertis, qu'ils ne sont pas convertis, et la seule chose qu'on peut... La seule consolation, c'est que Jésus a dit que on les reconnaît par le fruit. Mais Dieu a dit, c'est à lui de juger les cœurs et les reins. Dieu les juge, Dieu les connaît. Mais ici, le Christ nous a donné cette formule. Si cette personne refuse de voir sa part, d'assumer ses responsabilités après avoir tout fait, après avoir amené deux ou trois témoins, et après ça, on rapporte ça à l'église. Donc, on dit à l'église, c'est pas de monter sur la chaire publiquement, d'exposer cette personne afin de l'humilier. Non, on va vers le ministre, on va vers le pasteur et pour lui dire, voilà ce qui se passe. Et maintenant, c'est la responsabilité du pasteur pour avoir une réunion avec cette personne-là. Et puis, si cette personne-là encore ne veut rien entendre, Eh bien, bon, maintenant, cette personne, il y a des mesures à prendre. C'est que cette personne ne veut plus faire partie de l'Assemblée, et surtout quand cette personne commet des troubles et des divisions. Toujours est-il que ce n'est pas ainsi que la plupart de nous agissent, la plupart du temps. On accuse directement ou indirectement. On répand des bruits, on se proclame innocent. C'est pourquoi les disputes continuent et les hommes ne trouvent pas le chemin de la paix. Et c'est ici le commencement même des guerres entre les nations. Chaque nation cherche à avoir raison et blâmer l'autre. Vous savez, si, bon, maintenant je parle dans l'Église, si on pouvait suivre, observer les enseignements du Christ, chers frères et sœurs, nous aurons beaucoup de paix entre nous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand s'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller vers la personne directement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont auprès d'autres gens et ils continuent peut-être un coup de fil et maintenant et sur les et sur le média, sur les on utilise Facebook ou tous ces réseaux-là et puis on divulgue des choses et parfois qui sont vraiment qui ne sont pas exactes. On accuse, on dit des choses et puis bon. Et après cela, bon, ça cause beaucoup de problèmes. Chers frères et sœurs, c'est notre attitude en toutes circonstances qui compte. Nous ne comprenons pas toujours les raisons pour lesquelles nous passons par des épreuves. Mais sachez que si votre attitude est correcte envers Dieu, si vous savez que Dieu vous a appelé et qu'il vous délaissera, et qu'il ne vous délaissera jamais, dans ce cas, tâchez de raisonner comme il raisonne dans la Bible. Autrement dit, vous savez que vous avez été appelé pour être un jour dans son royaume. Vous savez également que Dieu vous a promis de vous protéger en toutes circonstances. Avec cette connaissance, dans chaque cas, même si vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose vous arrive, ne jetez pas la faute sur quelqu'un d'autre. Surtout pas sur Dieu. Examinez-vous vous-même sérieusement et honnêtement et voyez ce que vous pouvez faire pour changer ce que vous pouvez changer. Vous savez, nous passons beaucoup de temps à penser aux autres. Nous passons beaucoup de temps à penser, à faire des idées ce que les gens pensent de nous-mêmes. Et parfois, nous avons des résultats négatifs parce que on pense que, bon, ce qu'on pense de moi est pas juste, ce qu'on pense de moi, l'image qu'on a de moi n'est pas exacte et moi, j'ai, mon image à moi, j'ai la façon que je fonctionne. Chers frères et sœurs, Dieu vous connaît. Chacun de nous, nous n'avons pas besoin d'exhiber nos qualités devant les autres. Nous ne devons pas à tout prix à chercher les crédits devant auprès des autres. Si on vous félicite pour quelque chose, quoi que ce soit, ok, avec gentillesse, beaucoup de gentillesse, il faut être reconnaissant, il faut dire merci, il faut être content de cela. Mais ne vous efforcez-vous pas à chaque fois de chercher à avoir l'approbation des hommes et l'applaudissement des autres. Chers frères et sœurs, avec cela, avec ce genre d'attitude, cette attitude, vous allez être toujours senti être délaissé et puis frustré. Alors que Dieu, lui, il sait vos œuvres. Dieu sait ce que vous valez. Dieu sait tout ce dont vous avez fait et Dieu vous récompensera. Ne cherchez pas à blâmer les autres. Essayons de faire les efforts nécessaires pour reconnaître notre part de responsabilité et pour l'accomplir. Voyons comment la Bible raconte l'histoire d'une femme de la Bible dans Matthieu au chapitre 15, verset 21-22. Cette femme qui a été guérie, cette femme qui avait qui avait son fils était malade. Nous devons chercher à commencer dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon, au verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est une fille, pas un fils, et, désolé. Et sa fille était malade. Et il alla vers Jésus et cria, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « L'envoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Chers frères et sœurs, imaginez que quelqu'un comme le Christ, qui était un juif, et cette dame était une cananéenne. Et cette femme était allée vers Jésus pour lui dire, hein, parce que elle savait que seul Jésus-Christ pouvait guérir sa fille. Elle était allée voir Jésus et Jésus lui a répondu, ah, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes une cananéenne. Votre fille est une cananéenne. Je ne veux pas guérir votre fille. Et puis, cette femme vient se prosterner devant Jésus, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et Jésus répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Wow! Imagine cela, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui va auprès un pasteur de l'église pour demander une onction. Et puis, le pasteur a répondu, non, c'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Wow! Chers frères et sœurs, cette histoire serait partout et sur tous les écrans de télévision, maintenant. Ah, mais voyons l'attitude de cette femme au verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guéri. Parfois, on doit se demander, chers frères et sœurs, quelle est la grandeur de notre foi? Quelle est la grandeur de notre foi? Lorsque nous allons vers Dieu, est-ce que nous pensons vraiment ce que Dieu pense de nous? Ou bien nous pensons ce que les gens pensent de nous-mêmes, ce que la société pense de nous, l'image que la société nous donne? You know, ce n'est certainement pas la réponse qu'aucune de nous aurait attendue. N'est-il pas vrai que le Christ est venu pour tous les êtres humains et non pas pour les Israélites seulement? Pourquoi donc rejeter la demande de cette pauvre femme de façon si brusque? Et cependant, notez l'attitude de la femme. Elle comprenait ou non ce que le Christ lui disait, elle maintenait sa demande. Selon toute probabilité, elle n'était pas heureuse d'entendre la réponse. Mais elle n'a pas blâmé Dieu, ni la décision que le Christ avait prise en l'occurrence. Et elle s'est prosternée devant lui. Ah, chers frères et sœurs, nous devons voir que le Christ nous donne des exemples. Parfois, vous et moi avons besoin des exemples pour des épreuves. Voilà pourquoi nous avons des épreuves, pour tester notre patience, pour éprouver notre patience, pour éprouver notre foi. Et cet exemple doit nous servir de leçon. Dans nos prières, après avoir fait notre part, nous devons laisser le Christ agir à sa façon. C'est là où la plupart d'entre nous échouent. Nous cherchons des arguments plutôt que reconnaître la sagesse divine, sa bonté, son amour pour nous, et nous laisser agir à sa façon. Notez du reste les paroles du Christ dans Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 5. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce sont ces conseils-là, mes frères et mes sœurs, dont nous avons besoin chaque jour, que nous nous demandons à qui la faute. Ce sont ces paroles-là que nous devons mettre en pratique, comme le Christ a dit dans Matthieu, chapitre 5. Nous devons exprimer nos sentiments avec amour et non pas avec des reproches. Nous devons agir avec gratitude et non pas avec des plaintes et des complaintes. Lisons maintenant Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Verset 39, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ces conseils, mais là, chers frères et sœurs, prenez-les à cœur et méditez sur eux. Cette recommandation du Christ inclut chaque être humain, c'est-à-dire notre prochain, qu'il soit ami ou ennemi, gentil ou méchant, croyant ou infidèle. C'est en faisant preuve d'amour que nous arrivons à faire tourner les gens vers Dieu, vers sa bonté, vers sa richesse. Si nous nous comportons de cette façon, nous n'aurons jamais besoin de porter le blâme sur quelqu'un d'autre ou de demander à qui la faute? Laissez-moi vous donner encore un autre exemple dont l'importance ne doit pas être minimisée. Lorsque Dieu nous a créés, il a aussi créé le mariage, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. Dieu a condamné l'adultère, comme nous l'avions entendu ce matin dans la sermonnette. Et j'aimerais prendre du temps pour remercier M. Thibault Duval pour la sermonnette de ce matin. Ça, c'est vraiment bien. Et parce que la plupart du temps, quand on parle de Proverbe 31, on voit seulement la femme. Alors que, et dans la sermonnette, M. Thibault Duval a bien montré comment l'homme est responsable. L'homme a été mis en charge. Et c'est la cause des comportements de l'homme que la femme de Proverbe 31 pouvait exhiber ses qualités. C'est très bien. Oui, continuons. Dieu a condamné l'adultère. Malheureusement, tout au long des siècles, les hommes se sont de plus en plus détournés des lois divines qui régissent un mariage heureux. Voyez où en sommes-nous aujourd'hui. Il y a plus de divorces que de mariages, plus de disputes au sein d'une famille que partout ailleurs, plus de péchés et d'hypocrisie entre les couples mariés. Pourquoi? La question est à qui la faute? Et le plus souvent dans les tribunaux, et les femmes blâment les maris parce qu'elles veulent l'égalité, et les hommes blâment les femmes parce qu'ils ne comprennent pas le sens biblique d'égalité. Égalité aux yeux de Dieu, c'est tout à fait différent de ce que le monde parle. Parce que pour eux, quand le monde parle d'égalité, ils pensent que, ah bon, et nous devons agir de la même sorte, nous devons avoir les mêmes comportements, nous devons avoir les mêmes emplois, tout cela. Alors que même dans la psychologie, quand on étudie la psychologie féminine est tout à fait différente de la psychologie masculine. Et vice versa. En effet, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Et nous allons hériter, homme ou femme, la vie éternelle. Ça, c'est la base d'une union conjugale aux yeux de Dieu. Mais chacun de nous, homme ou femme, doit faire sa part. Chacun doit comprendre que ses responsabilités conjugales sont établies au niveau de nos rapports entre Dieu et nous. Lisons attentivement Éphésiens au chapitre 5, versets 22 à 28. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. dans d'autres versets, il dit sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Cette directive, mes frères et sœurs, doivent nous aider à comprendre non seulement la valeur d'un mariage heureux, mais encore comment nous préparer d'avance pour réussir. De nos jours, rares sont ceux qui réfléchissent sérieusement aux conséquences et au futur avant de se lancer dans le mariage. Ils ne se connaissent pas suffisamment avant de se lancer. Ils se laissent attirer par l'attrait physique et non par l'attrait spirituel. Chacun cherche sa propre satisfaction au lieu de chercher celle du partenaire, au lieu de rendre le partenaire heureux et non pas soi-même. Si vous étudiez la Bible, vous constaterez que la loi de l'adultère a été celle qui a été la plus transgressée dès le temps ancien. Et aujourd'hui, elle est encore plus que jamais auparavant. Laissez-moi répéter une fois encore que le but suprême de la vie, c'est qu'un jour, les êtres humains, c'est-à-dire les créatures physiques et charnelles, puissent être transformés afin de devenir des enfants spirituels dans la famille divine. Cela aura lieu lors de la résurrection des morts. Le Christ lui-même est venu en tant que l'époux de l'Église. Celui-ci se constitue par tous ceux qui se soumettent à Dieu, qui se repentent de leurs péchés, qui se font baptiser par immersion totale et qui vivent chaque jour pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté et non pas la leur. L'Église de Dieu se compose de ceux qui sont convertis, comme nous venons de le dire. L'Église est l'épouse du Christ. Cette révélation est d'autant plus importante lorsque nous comprenons que l'adultère est un péché à la fois physique et spirituel, puisque le mariage entre l'homme et la femme symbolise l'union spirituelle entre le Christ et les membres de son Église, purifiés et convertis. Nous autres, dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, sommes l'épouse du Christ. Nous devons nous comporter de façon digne de porter ce titre. Peu de gens comprennent ces vérités essentielles de nos jours. Peu de gens l'ont comprise à travers les âges. Mais lorsque le Christ reviendra en tant que notre sauveur et que roi des rois, l'humanité entière comprendra ces vérités essentielles et vivra en conséquence. En ce temps-là, Satan le diable lui-même sera écarté du milieu de l'humanité. Il ne pourra plus séduire les êtres humains. Nous aurons tous le Christ en tant que notre guide et sauveur. Nous nous tournerons vers lui pour comprendre toutes choses et faire sa volonté. Lors des épreuves et des calamités, lors des tragédies, personne n'aura plus besoin de se demander à qui la faute. Nous comprendrons que Dieu est toute justice, toute bonté, toute sagesse. En réalité, Dieu est amour, un amour pur. L'amour véritable n'a pas de place pour des souffrances, ni pour des accusations, ni pour des suppositions. Autrement dit, nous serons un jour des enfants spirituels de Dieu. Nous aurons son caractère, ses sentiments de sacrifice. Et comme l'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 12, 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 12, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous-t-ils vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et verset 20, mais maintenant Christ a ressuscité les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et vous pouvez prendre le temps pour lire tout le chapitre, parce que c'est vraiment bien de savoir notre histoire, de voir notre futur. C'est que Dieu nous a appelés dans ce corps. Nous avons un travail à faire. Notre travail à nos chers frères et sœurs, c'est de nous repentir, d'abandonner nos voies pécheresses, d'abandonner les voies de ce monde, de sortir du monde et de nous attacher à Dieu, de nous attacher à ses enseignements et de voir comment Dieu nous a appelés et de voir son but pour nous, afin qu'un jour nous puissions être membres de sa famille divine, afin de changer la course de ce monde. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons travailler acharnement afin que le jour viendra, Dieu peut dire de nous, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous soyons des serviteurs fidèles. Et Dieu peut dire que nous avons été fidèles dans très peu de choses. Et maintenant, il va nous confier de grandes choses. Soyons donc courageux, chers frères et sœurs. Vivons avec entière confiance en Dieu et en ses enseignements. Reportons-nous maintenant à Galates, au chapitre 6. Nous commençons au verset 4. Galates, au chapitre 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Au verset 5, car chacun portera sa propre charge. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul nous a fait cette recommandation avant de manger la Pâque, de nous examiner nous-mêmes. Trop souvent, chers frères et sœurs, nous avons cette tendance d'examiner notre prochain, notre frère dans l'église, notre voisin, notre époux ou notre épouse. Nous voulons examiner tout le monde, alors que nous devons nous examiner nous-mêmes. L'apôtre Paul ici, dit ici que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il conclut ainsi, au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Chers frères et sœurs, soyons convaincus que le Christ dit toujours la vérité et que si nous respectons ses enseignements, nous serons un jour ses frères spirituels qui vivront jamais avec lui et le Père Céleste pour toute l'éternité.